Alléluia. On est en train d'étudier encore la série sur les différentes positions qu'on a en Jésus. Aujourd'hui, la position qu'on va regarder, c'est que la Bible nous déclare que nous sommes parfaits devant Dieu. Là, on a besoin de comprendre quelque chose. On croit-tu que c'est possible de déclarer parfait devant Dieu? Bien, devant les deux pieds sur la terre. Qu'une personne sur la terre peut être une personne parfaite. Ça se peut-tu? Fait qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Dans 1 Corinthiens 2:6, la Bible nous dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Là, Dieu est en train de nous donner une nouvelle position qu'on a en lui, d'être déclaré des parfaits. D'être parfait, ça veut-tu dire qu'on est sans péché? On va voir la différence qu'il y a entre la position d'être déclaré parfait par Dieu, puis de est-ce qu'on l'est parfait dans notre vie de tous les jours. Pourtant, on le sait, tout le monde le sait, j'espère que j'ai pas besoin de vous le dire, que notre nature humaine n'a rien en elle-même pour marcher d'une manière parfaite dans ce monde. Mais qu'est-ce que veut dire la Bible? Qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul quand il dit « prêche parmi les parfaits »? Avez-vous déjà vu un chrétien parfait, humainement parlant? Moi, j'en ai pas vu encore. Mais j'ai vu plusieurs chrétiens qui visent de marcher dans la perfection. Ce qu'on sait, puis qu'on n'a pas besoin, oui, on se le répète souvent, puis on a besoin de le répéter, tout ce qui est parfait, les seules choses qui sont parfaites dans ce monde, c'est qu'est-ce qui vient de Dieu. Amen. Dieu, lui, est parfait. Nous sommes des imparfaits. On contient en nous des choses parfaites, pas dans nous, en notre chair. On a des cadeaux que Dieu nous a donnés, des cadeaux parfaits que Dieu donne, puis Dieu, parce que c'est lui seul, Dieu, qui est parfait, on le voit dans un des versets, et dans Jacques 1:17, toute grâce excellente, puis tout don parfait descendre d'en haut. Là, on vient de comprendre quelque chose. Tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, de Dieu le Père. Toute grâce excellente, puis tout don cadeau parfait. Ça veut dire que Dieu fait des cadeaux. On le sait, les grâces de Dieu sont découlées. On est sous la grâce en Jésus. On a le cadeau d'être pardonné. On a le cadeau d'avoir la vie éternelle. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. On ne mérite rien. On n'est pas bon. Mais Dieu fait des cadeaux parfaits. Puis dans ces cadeaux, dans la multitude de ces cadeaux, je ne sais pas à quel numéro qu'on est rendu, mais on a vu, je pense, au-dessus de 35 positions différentes que Dieu nous a données. C'est des déclarations par Dieu, puis il nous donne des cadeaux, des grâces parfaites. Puis dans ces grâces, dans la multitude de ces grâces, il nous a donné d'être appelés des parfaits. Il faut comprendre que là, la possibilité d'être déclaré parfait devant Dieu, ça provient de ce que Dieu nous a donné en Jésus et non pas de ce que nous produisons chaque jour. Il y a une différence, là. Dieu nous donne le cadeau d'être appelé des parfaits, mais nous, dans notre marche, on est loin d'être parfaits. Il y a une différence entre ce que Dieu donne de cadeau parfait, il nous donne d'être parfaits. Merci Seigneur. Nous avons obtenu une position parfaite sous le sang de Jésus. Parce que Jésus nous pardonne puis nous lave de tous nos péchés, on est appelé des parfaits. Parce qu'on est sous le sang, on est des pardonnés. Un pardonné, là, c'est quelqu'un qui a plus de dette, il ne doit rien, il est correct, il est parfait aux yeux de Dieu. Voyez-vous? Le cadeau que Dieu donne est parfait. Nous, ce que nous produisons, c'est imparfait. Puis Dieu, ce qu'il donne, c'est parfait. Son plan qu'il a accompli d'envoyer Jésus mourir sur la croix, il est suffisant, il est assez juste, ce plan-là, pour déclarer juste même des coupables. pour rendre parfait, pour déclarer parfait des gens imparfaits. C'est pas extraordinaire, n'est-ce pas un cadeau parfait que Dieu donne? S'il y a du monde, s'il y a une personne qui rentrera au ciel à cause du sang de Jésus, c'est parce que le sang de Jésus aurait été assez parfait pour pouvoir la laisser rentrer, parce que par elle-même, elle n'aurait jamais pu rentrer, voyez-vous? Puis s'il y a des milliards de personnes qui vont rentrer dans le paradis, dans la vie éternelle, c'est à cause de l'efficacité du cadeau parfait que Dieu donne dans le sang de Jésus, de pouvoir avoir pardonné une multitude qu'il ne méritait pas. C'est extraordinaire. N'est-ce pas que, puis on le sait que la Bible elle dit, puis on le voit dans les visions du futur, il va y avoir une multitude de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui vont se tenir devant le trône, en train de glorifier Dieu puis servir Dieu. Des multitudes innombrables de gens déclarés parfaits par un cadeau qu'ils ont reçu de Dieu qui ne méritaient pas eux-mêmes, mais c'est un cadeau parfait qui les a gardés dans la bénédiction de Dieu. Voyez-vous, quand quelqu'un marche sur le sang de Jésus, tu as la plus belle position que tu ne pouvais pas avoir pour qu'il t'assure même toutes les autres promesses. Parce que quand t'es venu à Jésus, ça t'a permis de naître de nouveau. Puis toutes les positions qu'on a vues à date, c'est toutes des nouvelles positions que t'as déjà en Jésus. Des cadeaux parfaits que Dieu te donne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Puis on va y redire un autre merci en plus. Tout ce qui est parfait ne vient que de Dieu seul. Merci Seigneur de nous avoir donné ce cadeau-là d'être parfait. Dans la suite de notre vie, là il faut comprendre que entre j'ai reçu le cadeau, puis qu'est-ce que moi je fais à tous les jours? C'est pas parfait moi, ce que je fais à tous les jours. Mais dans la suite de ma vie, mon perfectionnement ou votre perfectionnement ou notre perfectionnement, parce que le mot parfait, le mot perfectionnement, c'est pour devenir perfect. Perfectionnement, c'est pour devenir perfect, pour devenir parfait, parce qu'on vise à être parfait. Un chrétien, ça vise d'être parfait. Il veut être parfait comme son Père Céleste est parfait. Tu vises à être parfait, donc tu as un perfectionnement à aller chercher. Il y a une transformation nécessaire. Quand tu es chrétien, tu es dans une marche de tous les jours de perfectionnement. Dans la suite de ta vie, ton perfectionnement, de devenir parfait dans tes actions de tous les jours. Ça proviendra du bagage de sagesse d'en haut que tu recevras de Dieu. Parce que Dieu, il veut que tu deviennes parfait. Il t'a déclaré parfait à cause du sang de Jésus. Mais il veut que tu deviennes parfait dans ta marche de tous les jours, puis tu vas le devenir parfait à mesure du cadeau de la grâce. Quelle grâce on a besoin? De la sagesse de Dieu. Parce que ça prend ce qui vient de Dieu pour nous équiper, pour devenir plus parfait dans notre vie. Il faut que sa grâce, ses cadeaux, sa sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse charnelle, on parle de ce qui vient de Dieu. Ce que Dieu va te communiquer, va te donner de pouvoir être changé, transformé, renouvelé. Puis tu vas penser différemment. Ta vie est menée par un autre que toi. Est menée par le Saint-Esprit. Puis la puissance du Saint-Esprit plus la parole de Dieu dans ta vie, ça l'agit puis ça te transforme. Ça t'instruit puis ça te donne un bagage de sagesse d'en haut qui fait de toi que tu es une nouvelle personne transformée. Mais c'est ça qu'on a besoin de recevoir par Dieu pour notre perfectionnement. Notre perfectionnement terrestre va être dans la même mesure que ce qu'on va aller chercher comme addition en plus d'être sauvé. Sagesse d'en haut. On voit ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, les versets 6 et 7. L'apôtre Paul nous dit, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » C'est sur le verset que j'ai lu au début. C'est une sagesse, c'est pas la sagesse du monde qu'on prêche dans l'Église. On parle pas de choses du monde, on parle de la sagesse de Dieu. Il dit, « C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les gens sont déclarés parfaits en position parce qu'ils sont sous le sang de Jésus, sont parfaitement à la meilleure place pour les rendre parfaits. Mais c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Fait qu'il y a de quoi qui est prêché dans les églises du Seigneur qui rend le monde, mais je vais aller le voir, une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Tout ce qui est enseigné dans les enseignements bibliques, quand on prend la parole de Dieu et qu'on prêche des sujets différents, on est en train de recevoir de la sagesse qui vient de Dieu. C'est pas juste une connaissance, parce que la sagesse t'amène aussi une vie changée, transformée. La connaissance que tu reçois t'amène à un changement qui t'amène à être sage par Dieu puis pour Dieu. Amen. C'est une sagesse qui est mystérieuse et cachée. C'est un mystère parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Ça nous dit dans ce passage-là que c'est pas le monde, c'est pas ce siècle qui détient cette sagesse-là. Ça vient de Dieu, c'est révélé par Dieu, ça vient de la parole de Dieu. Le message qui est prêché à travers les messages de la parole de Dieu, ça transforme des vies, ça change des vies, ça amène le monde à devenir parfait. C'est extraordinaire, c'est puissant. Notre perfectionnement, autrement dit, on va grandir dans notre perfectionnement dans la mesure qu'on reçoit la sagesse de Dieu. Ce qui nous est prêché, enseigné, ce qu'on comprend, ça nous allume, puis ça nous motive. Aussi, on a comme une soif, une faim de vouloir devenir de plus en plus comme Jésus. Puis ça, Dieu avait préparé ça avant tous les siècles pour notre gloire. Les chrétiens le réalisent qu'en écoutant la parole, notre vie est changée, puis c'est notre gloire. On en a une satisfaction, on est heureux, on est fier quand on apprend des révélations nouvelles, puis ça nous fait grandir. On se sent encouragé, ça nous bénit, puis Dieu avait tout préparé ça avant même que le monde soit créé. Il avait pensé que le système sera bâti de cette façon-là. Tu vois Jésus pour être pardonné, puis après ça, tu entends les paroles, les prédications de la parole de Jésus pour être transformé. Puis ça, c'est la gloire des chrétiens. Lorsque tu as reçu ce qui fait de toi une personne parfaite, tu es déclaré parfaite, ça c'est à cause de Jésus. Lorsque tu as reçu ce qui te déclare parfait devant Dieu, ce qui vient de Jésus, mais là après ça, Jésus te demande de marcher dans perfection à l'exemple de notre Père céleste qui est parfait. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 5, 48. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Fait que tu as reçu la position, tu as reçu Jésus, puis là tu es déclaré parfait, mais là Jésus te demande à cette heure, marche d'une manière pour être parfait comme ton Père céleste est parfait. Puis c'est là qu'on voit le cœur des enfants de Dieu régénérés. Ils sont fiers. Sont fiers de servir le Seigneur, d'avancer pour le Seigneur, de grandir dans le Seigneur, puis de devenir de plus en plus comme le Seigneur. Les péchés sortent de nos vies, puis on est content d'être débarrassé de cela. On le sait comment ça nous détruisait, puis comment ça nous emmenait même à nous séparer d'avec Dieu quand on marche dans le péché. Puis à mesure que tu grandis dans le Seigneur, tu es fier, tu es content, puis là tu es béni, puis tu marches avec le Seigneur. Tu veux devenir comme Jésus, puis Jésus était comme son Père, il était parfait. Puis il nous demande à nous d'être comme Jésus, mais en voulant dire comme Dieu le Père. Parfait. Puis c'est notre but. Un chrétien doit, dans sa vie terrestre, avoir comme but de devenir parfait. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre sa vie de plus en plus d'une manière imparfaite? Levez vos mains. J'espère qu'il n'y a pas personne. Qui aime ça, qui se plaît quand ça va mal dans sa vie, quand il est dans le péché, puis quand il sait qu'il n'est pas correct devant Dieu, puis qu'il a la honte dans sa vie, puis qu'il ne se sent pas connecté, il ne se sent pas rempli du Saint-Esprit. Y a-t-il un chrétien qui aime ça? Peut-être par ignorance, puis il ne s'en rend pas compte. Mais Les chrétiens veulent marcher dans sainteté, dans pureté, dans... Ils ont découvert, ils savent qu'il y a une joie parce que le Saint-Esprit produit de la joie. T'es fier quand tu vis des choses, tu témoignes du Seigneur. T'es fier de témoigner du Seigneur. Le Saint-Esprit te met sa joie. T'es heureux de servir le Seigneur parce que tu marches dans le chemin de Dieu. Puis quand tu t'es libéré, comme je disais tantôt, t'es content de pas avoir ces boulets-là qu'on est obligé de traîner continuellement, puis ça nous ralentit dans notre croissance. On marche avec le Seigneur, puis on est content. Les chrétiens sont contents, sont heureux quand ils visent la perfection. Amen. À notre conversion, Dieu a entrepris une œuvre de transformation. Puis ça, on le répète souvent parce que je crois qu'il faut le savoir, puis il faut se le rappeler qu'on a marché dans la sanctification. La sanctification, c'est travailler à devenir de plus en plus saint. Saint, c'est être parfait, consacré au Seigneur, marcher à l'exemple de Jésus. Puis Jésus, quand on lui a donné notre vie, il est rentré dans notre vie, puis il a commencé ce travail-là de nous transformer pour qu'on devienne comme lui. Le Saint-Esprit nous amène là. Puis pour y arriver, mais il nous montre nos péchés. Puis si on les avoue pas, on grandit pas. Si on le dit, oui, c'est vrai, on demande pardon au Seigneur. Puis là, le Seigneur nous libère de ces affaires-là. On confesse nos fautes, puis le Seigneur nous pardonne, mais il nous purifie. Il nous enlève ces choses-là. Fait qu'il a commencé cette œuvre-là. Mais nous, on doit travailler avec lui pour le laisser nous amener à la perfection. Si je suis un rebelle, puis j'entends, il veut m'amener par là, puis il me dit, il me montre une affaire, puis il veut que je lâche cette affaire-là, mais je dois écouter. Oui, on a souvent des oreilles rebelles, puis on veut pas les voir, ces affaires-là, puis on veut pas les avouer, on veut pas les lâcher. Des fois, on traîne des affaires pendant longtemps avant d'y donner au Seigneur. Mais il faut apprendre à donner les choses au Seigneur. Faut apprendre, quand il nous montre de quoi, d'y demander pardon, puis de dire, Seigneur, prends-les, enlève ça de ma vie. Puis le Seigneur va le faire. Puis c'est ça le chemin de la transformation, le chemin de la sanctification, le chemin pour devenir parfait, pour devenir comme Jésus. Dans Romains 12, 2, ça nous dit de pas suivre le monde, de pas se conformer au mode du monde. Si tout le monde se promène tout nu dans la rue ici, là, mais on n'est pas obligé de faire comme eux autres. On peut rester habillé, nous autres. Même si tout le monde dit c'est normal de se promener tout nu dans la rue, les chrétiens doivent se dire, moi, je dois pas être une occasion de chute, personne, puis je m'habille. C'est ça qui est la vie. Je dois pas être une occasion de chuter aux autres. C'est pas à cause que le monde se drogue autour puis que la drogue deviendra légale dans notre pays qu'on va dire on va commencer à prendre de la drogue nous autres avec. Faut pas se conformer au monde. Faut pas être pareil comme le monde. Faut être pareil comme Jésus. Saint, pur, marcher dans droiture. C'est pas à cause que tout le monde serait des criminels puis tu verras plein de meurtres puis tout le monde en train de s'assassiner qu'il faut que t'embarques. Tout ici à assassiner d'autres personnes. Tout ce qui n'est pas de Dieu, toute forme de méchanceté, tout ce qui est contraire à la bienséance ou qui est contraire à être débauché, parce que Dieu veut pas, même te saouler, il dit que c'est de la débauche, te saouler. Faut pas qu'un chrétien se saoule, on doit apprendre à être sobre. Tu peux en prendre un verre ou deux, mais pas te saouler. Puis c'est ça qu'il faut développer, pas rechercher à être comme le monde. Il dit, conformez-vous pas au siècle, mais soyez transformés dans votre renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez savoir ce qui est parfait. C'est votre discernement qui va se développer pour arriver à discerner ce qui est parfait. Tu dois être parfait comme ton Père Céleste est parfait. Donc, faut que tu discernes c'est quoi être parfait. Puis Dieu va t'amener à comprendre. Puis pour que tu comprennes, il faut que tu changes ta pensée. Parce qu'avant, on ne comprenait pas c'était quoi être parfait devant Dieu. Puis s'il te change parce que tu entends prêcher la parole de Dieu, il te change dans tes pensées. Tu vas commencer à discerner la volonté de Dieu, puis tu vas le savoir, c'est quoi être parfait. Voyez-vous, la sagesse qui est prêchée, il dit, c'est une sagesse d'en haut, puis ça, ça va t'amener à être, discerner le parfait, puis à marcher dans le parfait. Amen.
Amen.
Paul, en lui-même, il prétendait pas qu'il avait atteint la perfection, mais il courait dans le but de l'atteindre. Dans Philippiens 3, le verset 12 à 15, Paul, il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais il vise la perfection. Il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Voyez-vous, un chrétien doit avoir comme but de courir pour tâcher de saisir à devenir parfait. Il dit, je sais pas parce que je l'ai déjà atteint d'être parfait, mais je cours pour l'atteindre. C'est quand qu'on se relâche ou qu'on relâche de fixer comme objectif d'être parfait, puis qu'on se laisse aller. Wow, une petite chose. Oh oui, qu'un autre petit verre. Oh, qu'un joint. Oh oui, un film porno. Oh oui, m'aller coucher avec la voisine. Oh oui. On se laisse aller, là. Hein? Puis là, on est en train de devenir dans le péché comme tout le reste du monde qui sont autour de nous. Puis ça, c'est grave. Puis ça, là, c'est loin d'être le chemin du Seigneur. C'est le chemin de la perdition. Se relâcher, d'arrêter de courir à perfection. Si tu cours pas pour la perfection, tu es en train de t'en aller vers la perdition. C'est ça que Paul y dit. Paul, lui, c'était... Moi, je ne l'ai pas atteint, mais je cours pour l'atteindre, la perfection. Il dit au verset 13, « Frère, je pense pas de l'avoir saisi, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière, puis je me porte vers ce qui est en avant. Et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Il court pour l'atteindre, ce but-là. Il n'y avait rien d'autre qui est important pour lui que vivre pour le Seigneur puis d'être parfait pour le Seigneur. Et il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Nous tous qui sommes parfaits en position, ayons cette même pensée de marcher en courant, pas marcher, mais courir vers la perfection. Voyez-vous, c'est ça qu'il est en train de dire. Paul, il connaissait la puissance de Dieu agissant dans la prédication de la parole. Parce que, il y en a qui vont dire, « Oh, son dos, eux, ils vont à l'église le dimanche. Ils pourraient tous rester couchés, puis on pourrait faire la grosse matinée, se reposer, au lieu d'aller à l'église. » Est-ce que ceux qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le bienfait que Dieu fait pendant qu'on est à l'église. Les gens se rendent pas compte que pendant que la parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit est en train de travailler puissamment pour transformer nos vies, pour nous équiper de ce qu'on a besoin de comprendre, pour être capable, puis nous mettre en nous aussi une motivation pour qu'on avance. Puis ça, c'est la puissance de Dieu qui agit pour qu'on avance comme Paul à courir pour se perfectionner. Puis ça, c'est Dieu qui fait ça, ce travail-là. Puis il avait prévu ce plan-là depuis le début de la création. Il avait prévu que ça se passe comme cela, qu'il y ait des églises, qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu. Oui, il y en a qui prêchent n'importe quoi. Ils prêchent des fables, ils prêchent des fausses doctrines, ils prêchent de faux buts. Mais oui, il y a des vrais qui prêchent les vraies affaires, puis ça, on a besoin de les entendre, puis ça nous encourage à aller de l'avant pour persévérer dans la foi. Ça nourrit notre foi, puis ça nous éclaircit le chemin de la foi aussi. Paul, il prêchait, puis il enseignait la sagesse de Dieu dans le but de présenter tout le monde rendu parfait. C'est ce qu'il dit dans Colossiens 1, 28. Paul, il dit, il parle, c'est lui que nous annonçons en parlant de Jésus, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, d'en haut, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il dit, on prêche, on enseigne, on instruit, c'est ça qu'il dit, avec la sagesse d'en haut, dans le but d'amener tout le monde à devenir parfait en Christ. Il dit, je prêche par une sagesse parmi les parfaits, mais je prêche la sagesse de Dieu pour amener le monde à être parfait. Fait que quand tu es dans l'Église et tu es en train d'écouter les messages, Dieu est en train de faire une œuvre pour t'amener à te perfectionner, à ce que tu deviennes plus parfait. Il change nos pensées, puis ça nous amène un changement dans notre conduite, puis on devient de plus en plus comme Jésus le veut. Amen.
Amen.
Notre foi peut être parfaite. Tu peux avoir une pleine assurance que Jésus, c'est le Sauveur, il est mort, pardonné tes péchés. Tu peux avoir une pleine assurance que Jésus, c'est le chemin à suivre. Puis que il dit, notre foi peut être parfaite, mais le problème vient de nos œuvres qui ne le sont pas. Tu peux avoir une foi qui est parfaite, mais tes œuvres ne le sont pas. Dans Jacques 2, 22, Jacques est en train de refaire le point là-dessus. Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Il parle d'Abraham, il parle de tous les hommes. Tu prends les exemples de n'importe quel homme de Dieu dans la Bible. Sa foi était démontrée avec des œuvres qui étaient en accord avec sa foi. Il dit, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, qu'il dit dans ce verset-là. Ça veut dire, tu as beau avoir une parfaite foi que Jésus c'est le Sauveur, que Jésus c'est le Seigneur, que Jésus nous emmène au ciel. Tu peux avoir une foi qui est parfaite, mais tes œuvres ne le sont pas. Mais le but de Dieu dans l'Église, c'est d'amener que par nos œuvres, il dit, que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, une personne qui a une foi, mais qui n'a pas les œuvres, il n'a pas une foi parfaite. Le but de Dieu, c'est d'amener nos œuvres en accord avec notre foi. Tu peux être assis dans l'Église, écouter des prédications, puis que ta vie ne change pas. Tu peux être assis dans l'Église, écouter des prédications, ta vie ne change pas. Parce que tes œuvres ne sont pas en accord avec ta foi. Faut que tu demandes à Dieu de t'éclairer, de venir te changer. S'il te montre de quoi, tu obéis, tu lui demandes pardon, tu laisses le Seigneur venir faire l'œuvre en toi pour qu'il te change. Faut que ça change. Faut que tes œuvres soient en accord avec ta foi. Et dit, par les œuvres, ta foi va être rendue parfaite. Plus que tu vas t'approcher du Seigneur, plus tu vas vivre les œuvres du Seigneur, plus que ta foi devient parfaite. Puis ta foi, tes œuvres vont être en accord avec ta foi. Puis c'est important d'en arriver là. On cherche souvent, je vois souvent des gens, je les entends sur Facebook, je les vois sur Facebook, je les lis. Ils vont à l'Église, ils parlent de Jésus, mais quand c'est le temps d'obéir à faire des choses que Dieu demande dans sa parole, ils contestent. Ils font le contraire, puis ils disent, « Oh, il faut pas que tu sois trop légaliste. Faut pas que tu gagnes ton ciel. » C'est pas une histoire pour gagner son ciel parce qu'on se décide d'obéir au Seigneur. C'est pas dans le but que je gagne mon ciel, c'est dans le but que je plaise à Dieu, puis que je marche dans la foi, une foi authentique démontrée par mes œuvres. Abraham, il n'avait pas une foi dans le péché, puis dans la débauche, puis dans la corruption, puis de rébellion contre Dieu. Chaque fois que Dieu lui montrait quelque chose, il obéissait, il le faisait. Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, il l'a fait. Dieu lui a demandé de quitter sa maison par la foi, puis il l'a fait. Dieu lui a montré des choses, puis il a dit ça va appartenir à toute ta descendance. Il a été, puis il l'a vu, puis Dieu lui a montré. Il obéissait à Dieu. Puis, obéir à Dieu fait partie des œuvres que tu dois faire pour avoir une foi parfaite. Si Jésus te demande d'être parfait comme ton Père Céleste est parfait, il veut que tu mettes l'effort de devenir parfait pour être changé. Sinon, il nous dira pas ça, puis il nous dira, laissez-vous aller, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Non, il a pas dit ça. Il y a plein de passages, Paul le dit. Il dit, moi, Paul, je cours pour être parfait. Je cours pour avoir, j'ai comme but d'être parfait, puis il disait, j'espère, ils allaient tous avoir la même pensée. C'est ça qu'il dit. Nos œuvres peuvent tellement témoigner le contraire à ce que la foi en Dieu nous demande, que nous pouvons nous retrouver morts spirituellement, même en fréquentant une église. Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible, un passage semblable? On voit ça dans l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 1 et 2. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 1 et 2, on est dans un passage qui nous parle de 7 églises. Puis, à chaque église, Dieu fait des déclarations. Puis, à une de ces églises-là, dans le chapitre 3, les versets 1 et 2, c'est l'église de Sardes, qui est une ville où que cette église-là, il y avait des chrétiens qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu, marchaient dans le péché. Puis, Dieu leur a envoyé un message. Dieu, dans les 7 églises, lui, il a dit à Jean, écris les lettres, là, puis envoie ça à toutes ces églises-là. Puis à la lettre qu'il a envoyée à cette église-là, c'est Dieu qui est en train de parler par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il a eu la révélation, puis il l'a écrit, puis il a envoyé une lettre à cette église-là. Puis regardez bien la lettre qui est que Dieu lui a un bout de la lettre. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Il parle au pasteur de cette église-là, celui qui est en train de lire la lettre. Dieu est en train de dire, je connais tes œuvres. Je le sais comment tu vis en tant que chrétien. C'est ça qu'il veut dire. Il n'a pas dit, je connais ta foi. Parce que ce gars-là, c'est un chrétien. C'est un enfant de Dieu qui était dans l'église de Dieu. Puis il écoutait la parole de Dieu, puis tu le quittes, sauf qu'il marchait pas, il n'y avait pas les œuvres qui devaient aller avec sa foi. Du monde qui vit dans le péché, là, pendant qu'ils sont chrétiens, puis qui vit dans le péché volontairement, à se rebeller, puis faire le contraire, il y en a toujours eu, puis il y en a encore aujourd'hui. C'est pas nouveau, il y en avait dans ce temps-là, puis Dieu leur a envoyé une lettre. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Il est en train de parler à un pasteur, puis il est en train de dire, tu passes pour un gars vivant, puis tu es mort. Le gars, il est plus vivant. Il a déjà été vivant, mais il est mort. Parce que pour être chrétien devant Dieu, pour dire qu'on est un enfant de Dieu, qu'on appartient à Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Là, tu es né de nouveau, tu es vivant. Mais dans ta marche chrétienne, en vivant dans le péché, Paul, il dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Puis là, il donne une liste de péchés, là, dans ce passage-là. C'est que tu peux être chrétien, assis dans l'église, puis marcher selon ta chair, puis mourir spirituellement. Puis tu peux être assis dans l'église, il est dans l'église, là. Puis il dit, il a envoyé une lettre, puis il a dit, tu passes pour être un gars vivant, mais tu es un gars qui est mort. Mort veut dire séparé d'avec Dieu, déconnecté, parce qu'il est trop dans le péché. Ce pasteur-là, il passait pour un gars connecté avec Dieu, mais il vivait tellement le péché qu'il a perdu sa communion avec Dieu. Il est rendu mort spirituellement. Puis là, Dieu, il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, parce que j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voyez-vous, il n'y avait pas les œuvres de la foi. Parce les œuvres de la foi, quand tu es dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, tu veux courir pour être parfait, comme Paul dit. Mais là, il dit, j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Tu marches dans l'imperfection, tu marches dans la désobéissance, en d'autres mots. Tu marches dans le péché, tu marches dans la rébellion. Tu passes pour être un gars bien bouillant, tu peux crier, mais dans l'église, tu peux dire que tu pètes le feu, mais quand tu t'en retournes chez vous, dans ta vie, tu vis dans le péché, puis tu te repens pas. C'est pour ça que là, je connais tes œuvres, puis il dit, j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Dieu s'attendait à ce que les chrétiens de Sardes marchent dans la perfection. C'est le but. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Fait qu'il dit à ce gars-là, à Sardes, j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Mais il y a une différence entre le gars, il se forçait pour courir pour devenir parfait. Mais même pas. Ça dit même pas ça. Ça dit qu'il était pas parfait. Il n'avait pas atteint le but. Puis Dieu, lui, veut qu'on court pour l'être parfait. Même s'il nous a donné le titre, il dit, je prêche parmi les parfaits, mais il dit, c'est dans le but de les amener à la perfection. Puis un chrétien doit avoir la motivation, comme but, d'être parfait. On le vise. Oui, on peut dire, je ne l'ai pas encore atteint, mais je vise. Puis si je tombe, puis je fais quelque chose, je demande pardon, puis je demande au Seigneur de m'aider, puis on court encore, puis on continue à marcher vers la perfection. De quelle façon peut-on, par nos œuvres, vivre d'une manière parfaite devant Dieu? Mais il y a des petits points que je vais vous les dire rapidement. Premièrement, la première des choses, c'est le combat commence par la prière. Un chrétien, s'il veut atteindre la perfection, faut qu'il prie. Faut qu'il demande à Dieu d'être changé. Dans Colossiens 4:12, ça nous dit que Épaphras, qui est un des vôtres, en parlant de ceux de la ville de Colosse, parce que dans Colossiens 4:12, il vous salue. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Puis il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Épaphras, c'est un gars qui aimait le Seigneur, puis il combattait dans la prière. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire que Épaphras est un gars qui priait pour que cette église-là à Colosse puisse chercher la perfection. Il dit, parfait et pleinement persuadé. Il dit, ne cesse de combattre dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Où est-ce que ça commence pour devenir parfait? Ça commence dans la prière. Combattre. Prier. Prier pour qu'on devienne parfait, puis qu'on persiste, qu'on persévère, qu'on lâche pas à soumettre entièrement à ce que Dieu nous demande. Faut apprendre à combattre. Il y a plusieurs domaines dans notre vie qu'on peut devenir parfait. Un, je vais vous en donner quelques-uns rapidement, au niveau de nos sentiments. La Bible parle d'une joie parfaite. Notre joie peut être parfaite. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans 1 Jean 1, le verset 3 et 4. Il dit, ce que nous avons vu, ce qu'on a entendu, nous vous l'annonçons. Les apôtres, là, ils avaient vu Jésus, ils avaient entendu Jésus, puis ils annonçaient Jésus. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Tu veux avoir une joie parfaite? Écoute ce que les apôtres ont enseigné. Écoute la parole de Dieu. Tu vas comprendre qu'on a une communion avec l'Esprit de Dieu. On a une communion avec Jésus. Puis ça va rendre ta joie parfaite. Qui va avoir une joie parfaite? Puis c'est correct de le demander, puis il faut le demander à deux mains. Y a-tu de quoi de plus bénissant que d'être dans la joie, puis dans une joie parfaite? Mais c'est possible de vivre une joie parfaite. Écoute ce que les apôtres ont écrit dans sa parole, puis garde ta communion avec le Seigneur, puis ta joie, elle va être parfaite. Ça se développe. C'est un développement. Un autre point, il nous demande, tu veux marcher d'une manière parfaite? Première place que faut que tu commences à contrôler. Il dit, garde ta langue en bride. Ça va t'amener à mener une vie parfaite. Dans Jacques 3:2, ça nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. On veut viser la perfection, là. C'est ça qu'on veut viser. Mais commençons à prier. Commençons à écouter la parole pour avoir une joie parfaite en gardant notre communion avec le Seigneur. Commençons à faire attention à ce qu'on parle. Gardons notre langue en bride, puis tu vas commencer à vivre d'une manière parfaite. Faut arrêter de parler contre les autres. Parler des choses négatives. Les choses sont pas de Dieu. D'abaisser du monde, puis ou d'être méchant avec nos paroles. Faut arrêter ça, compter des menteries. Nos paroles, là, nous rend imparfaits. Puis c'est là, souvent, on se vante de grandes affaires, puis après ça, on est pogné par nos paroles. Faut faire attention. Si tu veux être parfait, fais attention à ce que tu dis. Un autre moyen pour arriver à une perfection dans notre vie, c'est de garder sa parole, la méditer, la mettre en pratique. Nous démontrons que notre amour pour Dieu est parfait. C'est facile de dire, « Oh, Seigneur, je t'aime. J'aime le Seigneur. » C'est facile de dire ça. Mais un vrai amour de Dieu parfait, là, c'est quelqu'un qui est attaché à ce qui appartient à Dieu. Il va vouloir apprendre à connaître Dieu, il va vouloir apprendre à connaître la volonté de Dieu, il va vouloir apprendre la parole de Dieu, il va vouloir grandir dans la connaissance de Dieu. Puis là, tu vas démontrer vraiment, en la mettant en pratique, sa parole, que tu aimes Dieu.
Amen.
Une autre belle manière pour se perfectionner, c'est en rapport avec notre amour les uns envers les autres. Nous aimer les uns les autres manifeste que l'amour de Dieu agit parfaitement en nous. On voit ça dans 1 Jean 4:12. Il dit, personne n'a vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, puis son amour est parfait en nous. On n'a jamais vu Dieu, mais on peut voir l'amour de Dieu. Où est-ce que je vais voir l'amour de Dieu? Quand on va s'aimer les uns les autres. L'amour de Dieu va agir parfaitement en nous, puis les gens vont voir l'amour de Dieu quand on s'aime les uns les autres. Fait que visons la perfection, ça fait partie du plan de Dieu. Dans 1 Jean 4:12. Puis le dernier verset. Recherchons à être patients et persévérants dans nos épreuves. Surtout dans l'attente. Surtout quand on est fatigué, on vieillit. Le temps devient peut-être plus dur à endurer. Plus, ça prend plus d'efforts pour faire ce qu'on a à faire. Tout est plus lourd, tout est plus fatigant en vieillissant. Puis c'est vrai. Quand ça fait longtemps que tu es chrétien aussi, tu peux être essoufflé. Puis des fois, tu cherches un encouragement avec ce qui se passe autour, puis tu sais pas là. Faut que tu trouves ton encouragement dans le Seigneur. Mais faut que tu recherches à être patient et persévérant dans tes épreuves. Dieu le sait, Dieu le voit, ce que tu vis. Puis il faut que tu persévères parce que ça va te permettre, si tu es patient et tu es persévérant, à être parfait. Puis tu failliras en rien. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 1:4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Vous voulez être parfait, vous voulez être accompli. Vous voulez atteindre la stature de Jésus, mais il faut que ta patience, elle accomplisse son œuvre. Que tu aies une patience à toute épreuve dans ta vie. Que tu demandes au Seigneur de te rendre patient, puis il va le faire. C'est lui qui va le faire. Comme je vous disais, c'est don, c'est cadeau parfait, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. C'est prêché à travers la sagesse de Dieu. Mais c'est Dieu qui va faire cela en toi, tout ce qu'on a dit là. D'avoir une joie d'être en communion, une joie parfaite d'être en communion avec Dieu. De marcher d'une manière parfaite en tenant ta langue en bride. À démontrer que tu as l'amour parfait, un amour parfait pour Dieu en obéissant à sa parole. En voyant l'amour parfait de Dieu dans l'amour qu'on aura les uns pour les autres, puis en ayant une patience à toute épreuve. Puis tu failliras, tu tomberas pas dans rien parce que tu vas marcher de manière parfaite à cause de ta patience puis ta persévérance. capable d'endurer. Augmenter notre résilience, notre patience et notre endurance, c'est comme notre armure doit s'épaissir, pour être capable de passer à travers des épreuves puis pas succomber. Amen.
Amen.
Recherchons à être parfait comme notre Père céleste est parfait. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour la vision que tu nous donnes de rechercher la perfection. Seigneur, merci de cette position en Jésus d'être parfait, mais je te demande de nous aider dans notre marche de tous les jours, à ce qu'on puisse l'être aussi, que nos actions, nos œuvres puissent être en accord avec notre foi, qu'on soit des gens authentiques qui marchent comme l'apôtre Paul, à courir pour devenir parfait. Seigneur, on te remet nos vies entre tes mains, dans le nom de ton fils Jésus. Amen.